33-77. Dites oui à Georges Mabie Viager. Oui à la vie.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Vous avez choisi d'écouter Radio Classique, il est 14h. Voici Marc Tédé pour le Flash.
La bande de Gaza sera totalement détruite après la guerre en cours entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. C'est ce que prévoit à l'instant un ministre israélien, celui des Finances, Bezalel Smotrich, issu d'une formation d'extrême droite, alors que les autorités de l'État hébreu affirment désormais vouloir conquérir l'ensemble de la bande de Gaza. La France condamne très fermement d'ailleurs une infraction inacceptable du droit humanitaire. J'ajoute par ailleurs que l'État hébreu appelle cet après-midi tous les civils à évacuer immédiatement la zone de l'aéroport de Sanaa, capitale du Yémen, sans doute en perspective d'une frappe aérienne, nouvelle représailles après celle d'hier et après des tirs de missiles des rebelles houthis du Yémen sur l'aéroport israélien de Tel Aviv ce week-end. À l'instant, les cardinaux de l'Église catholique rassemblés pour une ultime réunion avant le conclave appellent à la paix en Ukraine et au Moyen-Orient. Des cardinaux qui ont par ailleurs commencé à emménager aujourd'hui dans les locaux du Vatican mis à leur disposition pendant ce conclave, réunion soumise à un huis clos très strict à partir de demain dans la chapelle Sixtine dès 16h30 et jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife. Toujours à l'étranger, en Allemagne, le conservateur Friedrich Merz trébuche sur la première marche. Il échoue à être élu chancelier dès le premier tour de scrutin au Parlement, malgré un contrat de coalition avec les sociodémocrates. 6 voix lui ont fait défaut sur les 316 nécessaires. Le parti conservateur dit espérer un nouveau vote dès aujourd'hui. L'AFD, formation d'extrême droite, réclame de nouvelles élections législatives. Enfin, en France, 90% des trains devraient rouler ce week-end du 8 mai. Les retours dimanche seront assurés. C'est ce qu'assure la SNCF malgré plusieurs préavis de grève. Le CAC 40, il est en baisse en ce moment de 0,37% à 7 699 points. 14h02 sur Radio Classique et c'est le moment de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour à tous.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Quelque chose de léger, de printanier, d'artiste d'une certaine manière, nimbe le Paris de la Restauration. Je vous emmène rue de Richelieu, on est tout près du jardin du Palais Royal. Les Parisiens aiment flâner là au beau jour et retrouver des amis et déjeuner dans les cafés alentours. Vous savez que c'est la grande époque des cafés également, une époque qui est en train de se perdre. Espérons qu'elle renaisse à l'occasion de cette reprise des activités. Certains après-midi, les promeneurs sont tout de même surpris par un étrange vacarme qui émane d'une fenêtre, des notes de piano, des arias brusquement interrompues par des cris et même des hurlements. Et des sanglots dans ce récit qu'il lui écrit à la première personne. Alain Duhaut nous décrit la scène. Voilà ce qu'il dit. Intraitable, souvent colère, le père vouait à toute force, voulait m'inculquer l'art du chant, fût-ce en me battant comme plâtre si je ne faisais pas les trilles à son gré. Car ma voix était rebelle, raconte la jeune personne, ce n'était pas naturellement une belle voix claire et terrée, plutôt une voix aux couleurs sombres, expressives sans doute, mais qui devait être domptée. Dans le rôle du dompteur, mon père était impitoyable, mais grâce à lui, j'ai acquis une technique sans faille. Une technique sans faille, c'est ce que voulait ce maître qui était le père de Maria. On raconte que le compositeur père serait passé un jour sous les fenêtres de Maria avec un ami qui s'inquiétait des cris de la jeune fille. « Oh, ce n'est rien !» aurait déclaré le compositeur. « C'est encore Garcia, parce que c'est son nom, c'est encore Garcia qui bat sa fille pour lui apprendre à mieux trier !» pour le voisinage de la rue de Richelieu, il n'y a en effet rien de plus habituel. C'est l'heure de la leçon de chant de la petite Maria et son père, Manuel Garcia, qui par ailleurs est un ténor bien connu en Andalousie, Manuel se montre impitoyable avec sa cadette. Son tempérament bouillonnant, ses éclats de colère ont fait le tour du quartier. On raconte que Manuel jette des objets, quitte la pièce poursuivi par l'enfant en larmes. Le père justifiera cette dureté. Il fallait bien, expliquera-t-il, discipliner cette voix inconstante, faire plier la fillette à la chevelure noire et au regard si expressif. Maria, un jour, aurait même rétorqué à son père « Cette choriste, elle aura plus de talent que vous, puisqu'il l'avait traitée de choriste. » Eh bien, c'est vrai, cette formation à la dure est tout simplement en train de façonner un prodige.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut que je vous dise où et quand elle était née, cette Maria Garcia. Maria Felicia Garcia, elle était née le 24 mars 1808 à Paris, justement, rue de Condé. Elle aurait aussi bien pu voir le jour en Espagne, en Italie, au gré des déplacements de son ténor de père. À la naissance de Maria, lui et Joaquina, la mère de la fillette, qui d'ailleurs était chanteuse elle aussi, viennent de poser leurs bagages à Paris. Manuel a été engagé pour quelques représentations au théâtre italien et Maria va donc passer ses premières années dans la capitale de la France. Elle se promène dans le jardin du Luxembourg, elle apprend ses premiers mots à quelques pas du théâtre de l'Odéon, mais en 1811, la voilà qui part pour l'Italie. On s'installe à Naples, elle s'installe avec ses parents et son frère aîné. Le père de famille se produit à l'époque au Grand Théâtre de Naples, au Théâtre San Carlo. Il a été remarqué par le roi qui n'est autre que Joachim Murat. Il devient premier ténor de la Chapelle Royale et comme le note Patrick Barbier dans sa biographie de la Malibran, la période napolitaine se révèle extrêmement fructueuse, puisqu'il va rencontrer là notamment le jeune Rossini. Grâce à Rossini, Manuel Garcia va acquérir une grande notoriété. Il sera notamment le premier alma viva du barbier de Séville. Quant à Rossini, il se prend d'affection pour cette petite Maria qui très tôt se met au piano, se met à la harpe. Elle a des dons, hein, elle a une forme de prédisposition. D'ailleurs, elle n'a que 5 ans lorsqu'elle va faire ses débuts sur scène. Elle est l'enfant dans l'Agnese, donc de Peyre, dont je vous parlais. Et déjà, elle montre un certain sens du spectacle. L'enfant devait aller remettre une lettre au ténor au moment où celui-ci chantait un duo avec la soprano, nous raconte Alain Duhaut. Mon père, puisque encore une fois, il nous fait parler Maria Malibran à la première personne, mon père qui tenait la partie de ténor a suggéré sa fille, moi. J'étais ravi de monter sur scène, le public était attendri, car il savait que j'étais la fille du ténor et je crois que mon père en était très fier. Mais un soir, au moment de ce duo, la soprano a fait un malaise, sans hésiter, car j'avais assisté aux répétitions et bien sûr à toutes les représentations, je connaissais ainsi l'opéra par cœur. Je me suis lancé dans le duo devant mon père, médusé, devant le public. Ravi, vous imaginez la salle à la fin de la scène, des bravos sans fin. L'enthousiasme a été tel que, à partir de cette soirée, chaque fois qu'on donnait l'Agnese, les spectateurs insistaient bruyamment pour que je prenne dans ce duo la place de la soprano. C'était un succès assuré. Vers 1816, la famille quitte la péninsule. On est de retour à Paris après quelques pérégrinations. On s'installe dans un appartement donc de la rue de Richelieu. Et c'est là que Manuel, qui a ouvert une école de chant, décide d'enseigner son art à sa fille avec cette sévérité que je vous racontais. Et puis, quelques années plus tard, en 1824, la famille, elle s'est agrandie.
Sont prévenus par ailleurs. Or, et c'est ce qu'il faut dire, les usagers de cette ligne-là ont un comportement bien précis. Orléans, ce n'est pas si loin de Paris. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs cette archive de 1976, issue d'un reportage de France 3 Région Orléans, diffusé dans l'émission Visage du Centre.
Pierre de Merlias, 55 ans, habite Orléans. Il a une liaison quotidienne, bicotidienne même, et cela depuis 15 ans. Monsieur de Merlias est donc fidèle. Sa liaison est ferroviaire. Elle va d'Orléans à Orléans via Paris.
Vous avez calculé le nombre de kilomètres que vous avez fait ?
Pas spécialement, mais enfin, mettons que ça fasse 1,5 million de kilomètres.
1,5 million de kilomètres. Est-ce que vous êtes fatigué ?
Non, non. C'est-à-dire que les conditions de parcours actuelles sont bien meilleures qu'avant, donc on ne fatigue pas, pour ainsi dire. Au départ, en 1960-61, beaucoup de voyageurs qui allaient à Paris partaient debout. Tandis que maintenant, tout le monde est à peu près assuré de voyager assis.
Monsieur de Saint-Vaulry, entre Vierzon et Paris, sommes-nous dans un train de banlieue ?
Ah non, pas. La banlieue est limitée à environ 50 à 70 km de Paris. Donc c'est ce que nous appelons de la grande ligne.
Mais c'est une convention tout de même. Dans la mesure où monsieur de Merlia vit à Orléans et travaille à Paris, il est dans une certaine mesure un banlieusard.
C'est absolument exact. Monsieur de Merlia peut être considéré comme un banlieusard. Mais aux yeux de l'État et aux yeux des finances de la SNCF, nous ne pouvons pas considérer ces distances-là comme des distances de banlieue.
D'Orléans à Austerlitz, 124 km. Monsieur de Merlia aura mis 1h10.
Patricia Perenas, c'est un point sur lequel il faut insister. En 1976, comme aujourd'hui, les usagers de cette ligne, notamment entre Orléans et Paris, le sont au quotidien. C'est un aspect très important. Ce sont eux qui vont être majoritairement impactés par la fermeture de cette ligne en conséquence des travaux qu'on vient d'évoquer. Est-ce que c'est cela qui fait la spécificité économique aussi de cette ligne, ce mouvement de balancier quotidien entre Paris et Orléans ?
Alors oui, il y a beaucoup de nafteurs sur cette ligne-là. Donc je vais trouver des chiffres. On parle de 120 000 voyageurs et 40 000 nafteurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Limoges derrière et qu'il y a Toulouse. Donc il y a aussi plein de voyageurs qui viennent de plus loin. Même dans votre reportage, on entend parler de Vierzon. Vierzon, on est déjà à 1h30 de Paris. Voilà, on n'est pas les meilleurs temps de parcours historiques sur les Aubrais Paris-Orléans-Paris. On est à 55 minutes, en gros. Donc c'est vrai qu'on passe en dessous de l'heure. Et il y a beaucoup de vos auditeurs qui doivent habiter en banlieue et qui se font sans doute des Paris-banlieue en une heure. Et c'est vrai que ce qui a été dit sur le fait que les gens soient assis, bon, aujourd'hui, c'est quand même pas le cas de tout le monde, mais quand même... Bon, quand même, globalement, on arrive à être assis sur ces lignes-là. Ça n'a rien à voir. Et pour avoir fait les deux, au niveau de confort, moi, j'ai pris le RER B pendant des années. On n'arrivait pas à monter dedans et à fermer les portes. Voilà, le Paris-Orléans, ça n'a rien à voir en termes de confort. Et le Paris-Bourges ou Paris-Vierzon, encore plus. Mais bon, quand même, il ne faut pas limiter ça au nafteur. Parce que justement, c'est le discours de SNCF Réseau de dire non, mais les trains ils vont circuler entre 9h30 et 17h30, donc ça passe pour les nafteurs. Attention, tout le monde ne travaille pas dans des bureaux. Il y a des gens qui ont le malheur de travailler à l'hôpital, de travailler dans des restaurants ou d'avoir des horaires un petit peu décalés. Et du coup, en gros, si vous n'êtes pas cadre ou fonctionnaire, les horaires ne vous vont pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le côté, c'est des nafteurs, on a mis en place des solutions pour eux. Il n'y a pas que, Et en plus, il y en a qui, tout le monde n'est pas à horaire 9h-17h ou 9h-18h.
Christophe Hemmer, à cette dimension presque sociologique, on pourrait le dire, s'ajoute une dimension géographique que Patricia Perenas vient d'évoquer. Il y a cette idée qu'il y en a, c'est le cas pour certains qui font ce mouvement effectivement au quotidien d'aller-retour. Plus on se situe loin de Paris, moins c'est une évidence. On se doute bien que la stratégie n'est pas la même. Dans quelle mesure prendre en compte justement ces effets de distance et donc ces usages différents au sein d'une même ligne joue justement sur la capacité à penser, à configurer la modernisation? Est-ce qu'une même ligne, sachant qu'il n'y a pas les mêmes usagers dessus, peut faire l'objet d'un plan général?
C'est effectivement compliqué sur le cas de la ligne Paris-Limoges, comme le disait Patricia, parce qu'il y a à la fois le début de ligne à Paris jusqu'à Bourges, où effectivement on va être plutôt caractérisé par un trafic d'individus qui font des mobilités domicile-travail, parfois quotidiennes, parfois étalées avec une nuit au milieu. Et puis après, au-delà, il y a tout le reste de la ligne qui descend jusqu'à Limoges, puis jusqu'à Toulouse, où là on va avoir d'autres types de sources de trafic d'usagers. Et alors ça, on a beaucoup plus de mal aussi dans les enquêtes de mobilité à les capter, parce que ça va être ce qu'on met sous l'étiquette voyageurs occasionnels le plus souvent, où on va trouver des étudiants qui vont partir le lundi, qui vont rentrer le vendredi. On va trouver des personnes retraitées. On va trouver également des personnes qui vont voyager pour des motifs familiaux, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension des déplacements professionnels, où dans le cadre de réunions ou dans le cadre de séminaires, sont amenés à venir à Paris ou aller ailleurs, puisque comme on a un réseau très centralisé, souvent Paris est le lieu où les principales correspondances se font, surtout depuis le centre de la France, pour rejoindre ensuite des façades maritimes ou la frontière de l'Est, par exemple.
Et on voit bien là tous les enjeux pour l'État organisateur qui doit prendre en compte tous ces territoires qui sont aussi des territoires institutionnels, mais aussi des usages en tant que tels. Alors, une grande question se pose, comment en est-on arrivé sujet-là, à cet état de vétusté, et donc les retards et donc les travaux qui vont être engagés pour y remédier. Depuis qu'il y a eu le premier TGV en 1981, le réseau classique a été sous-entretenu. Sur la ligne POLT, il faut tout reprendre, changer les rails, les traverses, le ballast, les poteaux caténaires, les fils de contact et mettre des locomotives en état de marche. Ce sont les mots de Jean-Noël Boisselot, vice-président d'Urgence Ligne POLT, un collectif qui a été créé justement pour faire monter le message de ses usagers. Christophe Mimer, est-ce que c'est vrai? C'est la concurrence avec le TGV qui a contribué à un sous-investissement de ces lignes dites de desserte fine?
Alors oui, en partie, mais il n'y a pas que le TGV. Les effets de concurrence, ils ont commencé déjà avant, quand l'automobile s'est diffusée de manière très large après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on dit que le réseau est vétuste, qu'il est sous-entretenu, etc. Mais il y a aujourd'hui encore des systèmes qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale et qui datent des grandes compagnies, avant même la SNCF encore. Donc on a eu ce phénomène-là de diffusion de l'automobile qui a rendu un peu obsolète le modèle économique de certaines lignes du réseau classique à l'époque. Et puis parallèlement, donc on a une concurrence à l'intérieur du mode ferroviaire, c'est vrai, avec la grande vitesse. Et puis on a eu un autre mode aussi qui s'est développé, c'est le mode aérien dans les années 60. On pense à des liaisons intérieures type Air Inter, etc., qui sont venues aussi. Et notamment jusqu'à aujourd'hui, sur Paris-Toulouse, le mode aérien est un concurrent féroce vis-à-vis du ferroviaire.
On se rend compte effectivement que cette concurrence aussi intermodale a beaucoup bouleversé la donne et puis la nécessité et donc l'idée d'une rationalité économique à entretenir ces fameuses lignes. Entre 1990 et 2015, 30 des 78 milliards d'euros investis dans les infrastructures ferroviaires l'ont été dans des lignes à grande vitesse, soit 38% du total. Patricia Perennes, dans quelle mesure le calcul économique s'est effectivement posé en ces termes, plutôt que d'entretenir l'existant, qui n'était de fait plus tellement rentable en raison de la concurrence qu'on vient d'évoquer, on a préféré investir dans le neuf, c'est-à-dire la grande vitesse?
Je pense pas qu'il y ait vraiment de calcul économique à ce moment-là. Je pense que c'est plus les finances publiques ont toujours été contraintes. Et c'est vrai que quand on arrête d'investir dans un réseau, ça se voit pas tout de suite, en fait. Ça se voit pas tout de suite. Et du coup, je pense qu'il y avait un peu cet effet-là où, on aime couper des rubans, faire la grande vitesse avec quelque chose d'attractif. On l'entend même dans le reportage que vous avez diffusé au début. Les gens disent, nous, on n'a pas la chance d'avoir la grande vitesse, on aimerait bien avoir la grande vitesse. Donc, c'est vrai que je pense que l'État a plutôt, pour ouvrir, il fallait construire, donc il fallait mettre l'argent, alors que pour le réseau structurant, le réseau qui existait déjà, bon, si on ne met pas pendant quelques années, voilà, ça ne se voit pas. Et c'est vrai qu'on commence à le voir à partir des années 80 et le TGV. Et la date qu'on donne souvent, c'est où on commence à avoir vraiment conscience de ça, donc à Réseau Ferré de France, à l'époque, qui existait avant SNCF Réseau. C'est en 2005, il y a un rapport qui est commandé, et donc qui est public cette année-là, qui est l'audit sur l'état du réseau, qui est fait par une université suisse, et qui dit, bon, ça ne va pas. Là, si on continue comme ça, le réseau, on ne va pas pouvoir le maintenir. Et de toute façon, étant donné les budgets qui sont à disposition du gestionnaire d'infrastructure, donc Réseau Ferré de France, va falloir faire des renoncements. Et c'était intéressant ce qui a été dit, parce que à partir de la Seconde Guerre mondiale ou même avant, la réduction du réseau, parce que les gens ont parfois l'impression que le réseau s'est beaucoup réduit ces dernières années, alors que si on regarde historiquement, pas du tout. Les plus grosses fermetures, c'est à partir de 38 et après Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc c'est plutôt, en fait, on était arrivé à un réseau qui était déjà quand même pas mal réduit. Donc on est passé de 42 km de ligne à 28 000, 27 000. Bon, mais même sur ce réseau-là, on pouvait encore le fermer, mais ça commence à devenir... Enfin, on continue à fermer un petit peu, mais beaucoup moins. Par contre, on a moins investi, quoi. On a moins investi, et ça finit par se voir.
Ce qui est intéressant, tout dans cette histoire, Christophe Mimer, c'est qu'il y a un facteur, on va dire, qui revient sans cesse, c'est celui de la vitesse. C'est cette idée que la vitesse permettrait à la fois une forme d'efficacité, on le comprend assez rationnellement, une forme de désenclavement plus efficace du territoire. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est l'argument vitesse qui a présidé, on va dire, à nombre de décisions en termes de pensée de cette infrastructure ferroviaire? Est-ce que, et notamment à partir des années 80, on réfléchit en termes de vitesse qui serait une sorte de synonyme aussi de rentabilité?
C'est surtout l'image qu'on se fait de la vitesse. Et c'est pareil, c'est pas récent, ça date pas forcément de l'arrivée du TGV. La vitesse, elle apparaît dès les lendemains de la Révolution française, quand on a commencé à faire des routes de voies de messagerie, c'est même du coup avant la Révolution, les routes royales, hein, où on crée finalement une hiérarchie dans le réseau, où on a d'un côté des personnes qui se déplacent à pied, et puis de l'autre côté, on a des personnes qui commencent à se déplacer par d'autres modes de transport. Et donc la première révolution de la vitesse, vitesse, c'est l'arrivée du train à vapeur, où on passe d'une vitesse finalement où on marchait avec ses jambes, puis avec des véhicules qui marchent tout seuls, j'ai envie de dire. Et donc là, on a un saut, vraiment, on multiplie la vitesse beaucoup plus fort que même entre le train classique et le TGV. Donc cette idée de la vitesse, on s'en est toujours fait quelque part un mythe depuis ces années-là, parce qu'à l'époque aussi, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est aussi un moyen de contrôler un territoire que d'y avoir accès facilement. Et puis, ces choses-là se sont trouvées confrontées à d'autres types de préoccupations, telles des préoccupations environnementales ou des préoccupations aussi de cadre de vie qui font qu'on revient un peu sur l'image portée sur la vitesse. Et aujourd'hui, on parle d'éloge de la lenteur. Et dans ce cas-là, effectivement, les trains classiques ou même les trains dans les petites lignes redeviennent finalement des objets centraux parce qu'on peut se déplacer autrement que par la grande vitesse. Et la grande vitesse ne va pas partout encore en plus.
Patricia Pérennes, pour rebondir sur ce fameux rapport de 2005 qui sonne aussi comme une forme de prise de conscience et que vous avez évoqué, il ne s'agit pas uniquement de préférence, effectivement, il y a aussi la notion de contrainte qui apparaît dans ce rapport. Depuis 20 ans, les budgets d'entretien ont perdu 20% de leur valeur en monnaie courante, alors que 3441 km de voies à grande vitesse se sont ajoutés au patrimoine, ça c'est l'effet TGV. Entre 1980 et 2001, une telle évolution ne peut conduire, souligne l'étude, qu'à un vieillissement très important du réseau classique. Comment expliquer ce goulet d'étranglement dont on se rend compte en 2005? D'où vient cette contrainte financière qui s'ajoute à des ambitions infrastructurelles?
Globalement, c'est parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le discours, la réalité, c'est que le ferroviaire n'a jamais été une priorité. Alors, un tout petit peu plus ces dernières années, mais clairement, même dans les années 2000, c'est pas vraiment une priorité. Et du coup, on essaye de ménager la chèvre et le chou en gardant le TGV, voilà, c'est pas une priorité. Globalement, il faut se dire la réalité. Là, il y a quand même eu, il faut le reconnaître, depuis deux ans, depuis un ou deux ans, une stabilisation de l'âge du réseau, alors que ça continue à se dégrader, parce que la ministre des Transports, qui s'appelait Elisabeth Borne à l'époque, avait décidé de mettre 1 milliard de plus. Et après, quand elle est devenue première ministre, évidemment, ça a aidé dans l'infrastructure. Et donc là, on a un maintien de l'âge du réseau. Donc on a eu des progrès, mais c'est très récent, en fait. On pourrait se dire, oulala, sauver la planète, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, avant que ça se réalise dans les faits, il a fallu un certain nombre d'années, quoi.
Et Patrice Brenet, je voudrais juste insister là-dessus aussi. Vous dites que c'est très récent. Alors, c'est marrant, les temporalités. On parle donc du TGV qui arrive au tout début des années 80. Ce rapport de 2005, il y a déjà un certain nombre d'années qui sont arrivées. 2005 par rapport à 2025, où le sujet, nous l'avons dit, rejaillit dans l'actualité. On a l'impression que la temporalité de prise de conscience, puis de mise en place, est extrêmement longue. Est-ce que c'est ce qui caractérise de fait tout ce qui concerne les investissements en termes d'infrastructures ferroviaires?
Oui, le transport ferroviaire, c'est vraiment le temps long. Et c'est vrai que quand j'entendais le train de la colère, je me disais, ce que risque de leur dire le ministre quand ils vont arriver à Paris sur le Paris-Orléans, ça arrive. Franchement, vous allez avoir les nouveaux trains et les travaux d'infrastructure. Par contre, c'est vrai que c'est deux ans. Et du coup, ça paraît très long. Et en fait, c'est très, très court à l'échelle du ferroviaire. Ça a été dit. On a des postes d'aiguillage qui datent des années 30 et qui sont toujours utilisés. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça casse pas d'un coup, en fait, et qu'on peut faire durer. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est long. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça. On n'aura jamais une ouverture de ligne sous un ou deux ans. C'est toujours au moins 10 ans.
Et de ce rapport de 2005, je le disais, générer une forme de prise de conscience, les choses ont changé quand même en 10 ans. Il faut le signaler. En 2006, l'âge des petites lignes était de 46,5 ans. C'était alors un record. 10 ans plus tard, il a été abaissé à 38 ans. C'est entre 38 et 40 ans en moyenne. Il y a eu un plan de financement entre les deux. En décembre 2016, ce plan sur 10 ans est mis sur pied. 46,2 milliards d'euros doivent être consacrés par la SNCF au renouvellement et à la mise en conformité du réseau ferré et des équipements. Guillaume Pépi, qui était alors PDG de la SNCF, déclarait « Nous allons mettre le paquet non pas sur de nouvelles lignes à grande vitesse, mais sur les trains du quotidien. Est-ce que c'est effectivement ce qui s'est passé, Patricia Pérennes ?
Alors, sur le rajeunissement des petites lignes, alors je dirais deux choses pour nuancer le propos. Il y a eu des fermetures. Et quand vous fermez les plus vieilles, ça baisse la moyenne. Donc ça, il faut quand même un moment se le dire. Je crois qu'il y a eu, depuis 2019, 600 km, un peu plus, presque 700 fermetures de lignes. Clairement, c'est les plus vieilles et les moins utilisées. La réalité aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, les régions, à partir de 2015-2016, se sont mis à financer le réseau. Alors qu'avant, je vous ai dit, moi je travaille pour les collectivités, pour les aider à négocier leur contrat, donc négocier les trains qui roulent. Et en principe, les collectivités n'ont pas à mettre d'argent dans le réseau. En tout cas, ça n'est pas partie des missions attribuées par l'État. Bon, la réalité, c'est qu'il y a des lignes qui ne voient pas c'est que des TER. Donc si elle ferme, évidemment, pour la région, ça ne va pas. Et du coup, c'est vrai que les régions ont injecté pas mal d'argent. Et donc...
Écoutez, c'est un collecteur fréquence 3.
C'est the fight to make ends meet. Keep some man up on his feet.
Le collecteur de Robert Palmer avec Every Kind of People. Vous êtes sur Fréquence 3, c'est la radio locale. Et la suite ici avec Anna Baye, il y aura également Héloïse Eritsa. Alors Héloïse, je l'ai vu en concert l'année dernière et franchement sur scène ça claque. Eritsa, eh bien je vais le voir à la fin du mois en concert et j'ai tellement hâte. Parce que Eritsa, il a bercé vraiment toute mon enfance et toute mon adolescence. Avec des titres comme Pardon, Je m'en fous, La Cédaille, vraiment. Eritsa, c'est un artiste que j'adore et j'ai hâte d'aller le voir à la fin du mois en concert. Je vous donnerai, tiens, mes impressions une fois que j'aurai vu ce concert. Héloïse Eritsa pour la suite, avec Anna Baye et puis Chapel Rhone sur Fréquence 3, la radio locale.
Fréquence 3. C'est la radio locale du Loir-et-Cher.
Une équipe qui ne se prend pas au sérieux.
Dédé.
Dès 6h, commencez votre journée avec Jérém.
Dans le gros réveil Fréquence 3.
Fréquence 3.
Je vous attends avec Marine pour vos infos, la météo, l'horoscope, votre programme télé et les bons plans dans la région. Toujours dans la bonne humeur, le matin sur Fréquence 3.
La
radio locale. Fréquence 3.
Fréquence 3.
Retrouvez Raphaël Dethube dans le Loir-et-Cher.
En moins de 2 minutes.
En moins de 2 minutes.
La ferraille, c'est comme votre monnaie. C'est précieux. Professionnel, particulier, déposez vos métaux ou votre ferraille chez De Richebourg Environnement et repartez avec un chèque. De Richebourg Environnement à Fossé et Saint-Ouen. Plus d'infos sur derichebourg.com.
En mai, la communauté de communes du Castel-Renaudet vous accompagne dans la rénovation de votre habitat. Rendez-vous mardi 13 mai de 9h30 à 11h30 à Auzeur en Touraine pour tout savoir sur les aides et démarches disponibles pour rénover votre logement. Plus d'infos et renseignements sur www.cc-castel-renaudet.fr.
Dimanche 18 mai, rendez-vous à Saint-Nicolas-des-Motets pour le grand vide-grenier du comité des fêtes. Pour les exposants, installation des 6 heures, seulement 1 euro par véhicule. Sur place, buvette, restauration et jeux pour les enfants. Ne manquez pas cette journée conviviale. Infos et inscriptions au 06 10 30 76 44. 06 10 30 76 44.
Que vous soyez professionnel ou particulier, choisissez l'entreprise Defin, spécialiste en terrassement et travaux publics. Plus de 39 ans d'expérience au service de vos terrassements, assainissement autonome, tranchées techniques, petite démolition, viabilisation, pose de clôture et aménagement extérieur. Entreprise Defin à Autrèche ou sur www.defin-37.fr.
Envie de voyager en Polynésie? Rendez-vous les 24 et 25 mai à la salle Eva Paris de Motodon pour un week-end 100% polynésien. Au programme, artisanat d'art, massage, initiation à la danse tahitienne et dîner-spectacle. Venez découvrir la culture des îles avec l'association La Cuisine des îles des Raini 987. Plus d'infos sur le Facebook La Cuisine des îles des Raini 987 ou par téléphone au 06 75 24 78 39. 06 75 24 78 39.
Joyeux anniversaire Martine! Pour fêter les 3 ans de son arrivée, Intermarché Château Renaud vous propose 9 lots à gagner chaque jour. Loterie réservée aux porteurs de la carte fidélité à partir de 100 euros d'achat. Et c'est seulement dans votre Intermarché Château Renaud les 9 et 10 mai.
Pas plus de 2 minutes de pub, promesse tenue.
Sur Fréquence 3,
c'est le retour d'une rafale de tube dans le Loir-et-Cher.
Baby!
Combien de jours sont passés sans se voir? J'ai recompté mes doigts 100 fois. J'ai pas oublié le son de ta voix. J'y pense chaque soir. Regarde un peu autour de toi. Est-ce qu'il te manque pas un bout de moi? Il y a ton nom gravé quelque part, tout au fond de moi.
Je traverse les jours, les nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin.
Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Hey toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Hey toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. Traverse les jours, les nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin. Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Hey toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Hey toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. Comment j'ai fait sans toi?
Toutes ces années sans se voir.
Je pensais qu'il était trop tard.
Je veux plus jamais te revoir.
Comment j'ai fait sans toi?
Je me demande chaque fois comment tu vas toi loin de moi.
Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Hey toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Hey toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer.
Fréquence 3.
Fréquence 3.
Une rafale de tubes.
That's nothing new. Boy, you got no idea what's coming for you. Got a bad reputation, good at temptation. Yeah, all the rumors are true. I'm gonna make you work, I'm gonna make you sweat. You're gonna feel that burn when we go head to head. Boy, you don't do the chasing, got too much self-respect. Why you confused? You're gonna lose. Well, what did you expect? From a 10 out of 10, heaven sent, femme fatale. Got you right where I want you, I got it all. Yeah, I'm dangerous.
épouser le brouillon, mais aussi bien nous pourrions ne pas. À moins que peut-être vous vouliez dans ce cas. Pourquoi pas? Ou alors non, ou alors peut-être pas. Peut-être préférez-vous ne pas. Vous l'aviez proposé, je crois. Nous pourrions, pourquoi pas, décider. De laisser se faire le fameux pas. Le premier fameux pas. À moins que oui, à moins que non, à moins que plutôt pas. Bah.
Eh ben, vous êtes là maintenant sur la chaîne TF1. Mais non, on est sur Studio Z. Ah oui, pardon, je me croyais pas qu'on était là. Désolée. Du coup...
Reasons about for you to turn around, but on your crown you'll knuckle down. Huddles about, but you'll knock them all down. What good's a crown if you can't trample down? And around we roll, digging deep and slow. In slow motion we roll towards a waning glow. And around we roll, digging deep and slow. In slow motion we roll towards a waning glow. Pull your child to a cheering crowd. We really thought you'd pull every stunt. Shame and play the reckless clown. You draws a line in the sand. These days is bound to drown. And around we move, digging deep and slow. In slow motion we grow towards the waning glow. And around we move, digging deep and slow. Motion we grow towards the waning glow.
Malango menu.
Mini la cosa la sokina nya. Mokili se de zatu. Natikali mozemba na kobima na na nio. Lala kabakala.
Les Jeux d'eau à la Villa d'Est de Franz Liszt, extrait des années de pèlerinage. C'était Cédric Tiberghien qui avait enregistré cette partition en 2017 pour la maison de disques Hyperion.
France Musique.
Dans quelques instants, ce sera relax sur France Musique. Et c'est de nouveau Aude Gigère qui remplace cette semaine le vacancier Lionel Esparza. Bonjour Aude.
Bonjour François-Xavier. C'est quoi votre programme demain ?
Cédric Tiberghien, troisième épisode, en grande partie consacré à Brahms, mais aussi avec un peu de Grieg et de César Franck.
Formidable.
À demain.
À demain.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
Deux opéras bien différents demain dans En piste.
Un classique wagnérien, le Hollandais volant, et une partition beaucoup plus rare, Vénus en Afrique, de Georges Antheil.
En piste, à demain 9h.
En piste, une émission France Musique, à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
France Musique, les grands entretiens, Alex Dutille, à 6h30 et 22h.
Cette semaine, c'est Rhoda Scott qui se raconte. On sait qu'elle joue de l'orgue à pieds nus. Ben, elle est à voix nue pour raconter son enfance en Amérique, son arrivée en France. Tous ses secrets sur l'orgue, ses collaborations. Bref, une éternelle young lady. Rhoda Scott.
Les grands entretiens, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
France Musique. Relax. Audigère.
Bonjour à tous et bienvenue dans Relax pour cette deuxième émission de la semaine. Je vous ai réunis